bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, aujourd'hui, il y a Aimé et Sophie. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Ravie de vous retrouver.
Alors, dans cette émission, nous allons accueillir Abdou et Alain de la LDH 49. Et puis, on va parler de l'actualité. On écoutera la chronique de Céline et on finira par un agenda plus culturel que militant. Mais commençons tout d'abord par l'éditorial de Sophie. Tu vas nous parler de l'opération Wambushu à Mayotte.
Oui, resituons tout d'abord cette opération. Wambushu, qui signifie « reprise en maorais ». Celle-ci a été pensée par Gérald Darmanin et validée lors d'un conseil de défense de Emmanuel Macron. Elle a débuté le 22 mai à Mayotte avec la démolition de 162 cases dans lesquelles vivaient 400 personnes. Il s'agissait de la première étape de cette vaste opération inédite avant la destruction d'une quinzaine d'autres bidonvilles prévues dans les prochaines semaines. Les trois objectifs de cette opération militaro-policière sont le renvoi des immigrés illégaux, en grande partie originaires des Comores, la destruction des habitats insalubres dans les bidonvilles et la lutte contre la délinquance sur ce département d'outre-mer français.
Alors comment est-ce que cela a été perçu par les Comoriens ?
L'envoi de plus de 500 policiers supplémentaires sur l'île a été très mal vécu par les habitants des bidonvilles et par le gouvernement comorien, ce qui a suscité de fortes critiques et des répercussions diplomatiques entre la France et l'Union des Comores, ainsi que sur l'île de Mayotte. De plus, le début de cette opération a connu de grands ralentissements dès son lancement, avec le refus des Comores de recevoir les personnes expulsées et la suspension par la justice des démolitions des bidonvilles, alors que la préfecture était incapable de fournir des offres de relogement.
Alors dans ce cas, qu'en est-il de la population ?
Si une partie de la population doit être relogée, selon le ministre de l'Intérieur, il est prévu que les autres, lorsqu'ils sont comoriens et qu'ils résident de façon illégale à Mayotte, soient massivement expulsés vers Anjouan, l'île comorienne située à 70 km de Mayotte. Cette opération est dénoncée comme brutale, anti-pauvre et violant des droits des migrants par de nombreuses ONG. Cependant, elle est soutenue par les élus français et de nombreux habitants maorais.
Alors, quelles sont les conséquences pour cette opération ?
Tout d'abord, Mayotte se sent abandonnée et la population hurle son désarroi. Si la violence dénoncée par les habitants est bien réelle, l'État se focalise sur une réponse répressive, vaine et préjudiciable, sans formuler de réponse globale suffisante face à l'ensemble des besoins pourtant criants dans le 101e département français. Face aux besoins de résorption de l'habitat insalubre et d'accès à un logement digne, il déploie des tractopelles et jette des familles à la rue. Et puis, l'autre conséquence est qu'à Mayotte, plus encore qu'ailleurs, l'immigration est présentée comme responsable de tous les maux et sert de justification à un régime particulièrement attentatoire aux droits et à la dignité humaine. Elle attise la violence qu'elle prétend combattre et n'a pas sa place dans un état de droit. Sans compter que cette opération prévoit d'augmenter de façon exponentielle le rythme des reconduites à la frontière.
Alors les associations, qu'est-ce qu'elles demandent ?
Elles sont de plusieurs ordres. Premièrement, l'arrêt immédiat d'une opération qui met en péril l'intégrité physique et psychique de l'ensemble de la population. Il faut rechercher l'apaisement et la construction par la coopération de réponses de long terme aux besoins fondamentaux de l'ensemble de la population, aussi bien en matière sociale, sanitaire, éducative et économique. Les associations demandent aussi la suppression du régime dérogatoire pour parvenir à l'égalité républicaine et l'alignement des droits et services avec le reste du territoire national. En particulier, la protection inconditionnelle des enfants, la fin de leurs enfermements et de leur expulsion illégale, et enfin, la fin de la territorialisation des titres de séjour qui fait de Mayotte une prison à ciel ouvert.
Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion à cette fameuse opération ?
Non seulement elle ne réglera pas les difficultés auxquelles tous les habitants sont confrontés, mais elle va aggraver la précarité de la population et exacerber les tensions sociales qu'elle prétend combattre.
Merci Sophie. Et vous Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Abdou et Alain de l'association LDH49. Merci beaucoup d'être venus jusqu'au studio ce soir. On présente plus votre association, mais un petit rappel ne nous fera pas de mal, Alain.
Oui, la Ligue des droits de l'homme est née il y a 125 ans maintenant lors de l'affaire Dreyfus, en se plaçant du côté de Dreyfus contre l'antisémitisme. Nous sommes et nous sommes toujours restés une organisation luttant contre les discriminations et cela n'a bien entendu pas fait plaisir au gouvernement de Vichy qui a été le seul gouvernement à suspendre, interdire la Ligue des droits de l'homme. Donc nous avons repris après Vichy et nous sommes un symbole de la liberté d'expression.
Et à Angers alors, ça a été créé quand ?
Elle s'est créée au début du XXe siècle parce qu'il y a toujours eu un petit décalage entre l'Anjou et la France.
Alors, en revanche, là, il n'y a pas de décalage, puisque lors de ces dernières semaines, la LDH 49 a organisé deux événements sur Angers. Le fil rouge en était la démocratie en danger. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, lors d'une réunion du bureau, on a constaté, suite aux différentes manifestations, qu'il n'y avait pas d'écoute, qu'il y avait plus de place aussi dans certains médias pour les casseurs que pour les manifestants pacifiques. Donc la Ligue a trouvé que fallait qu'on fasse quelque chose pour être écouté, parce que on a un gouvernement entre guillemets qui n'écoute pas. Et donc au mois de mars, on a dit voilà, on va essayer de rassembler les forces vives sur le territoire du Maine-et-Loire. Donc on a envoyé des invitations à différents syndicats et associations pour organiser avec l'ensemble sur les atteintes à la démocratie, entre autres. Grosso modo, c'était suite aux atteintes aux libertés lors des manifestations.
Oui. Et donc là, le premier événement, c'était une réunion. Oui. Voilà, une grande réunion. Oui. Amnesty, il y avait pas mal de participants d'Amnesty. Il y avait d'autres associations invitées.
Oui, il y avait,
syndicats.
Il y a ATTAC, il y a Amnesty International, il y a la CGT, Solidaire. Nous nous sommes réunis à l'espace Frédéric Mistral.
Il y avait le mouvement de la paix, non ?
Il y a le mouvement de la paix, il y a la CFDT. Alors, pardonnez-moi si j'en ai oublié.
Et donc, on était présents, hein. Il y a eu pas mal de prises de parole. Chacun, oui. Chacune a pu s'exprimer et il y avait vraiment un sentiment commun, voilà, de malaise vis-à-vis de cette violence qui, on a l'impression, qui est en train de monter, là, de militarisation, on peut dire ça, de la police avec ses armes dites à létalité réduite et puis plein d'autres comportements aussi, quoi. Oui. Une forme d'impunité aussi, on peut dire.
Oui, on peut pas dire que, il y a pas violence. Il y a violence. Et nous, la Ligue des droits de l'homme, on condamne toutes les violences d'où elles viennent. Ça, c'est un principe fondamental. Par contre, notre principe fondamental, c'est de défendre les droits des citoyens. Qu'ils soient policiers ou non, qu'ils soient citoyens lambda, on est là pour défendre tout le monde. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on constate une montée, guillemets, des violences policières. D'ailleurs, on nous a donné raison, puisque la Cour européenne nous a donné raison, et aussi les Nations Unies.
Oui, on va en parler dans les actualités, justement.
Pendant cette réunion, on a pas mal parlé de l'Observatoire des libertés. Est-ce que vous pouvez nous en dire brièvement deux mots ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, il a une histoire. Suite aux violences policières, il y a quelques années de ça, il y a deux ou trois ans, donc la Ligue des droits de l'homme a créé l'Observatoire. Ce sont des personnes qui ont une chasuble, qui sont bien identifiées, avec un casque, caméra, et ils doivent rendre des comptes. Donc nous, on a fait la déclaration, moi j'avais fait la déclaration auprès de la préfecture et au préfet. Alors au départ, on nous a réunis, on nous a dit, mais non, Angers, les manifestations se passent bien, c'est plutôt familial, il n'y a pas besoin de cet observatoire. Mais finalement, cet observatoire a montré que face à des violences, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, leur place était utile. Donc c'est vrai qu'au début, les observateurs, entre autres dans le sud de la France, et des fois ils étaient arrêtés.
Je me souviens à une COP, il y a une femme qui avait été arrêtée.
Qui a été arrêtée, oui, de l'observateur.
Et elle faisait partie de la LDH ?
Oui, elle faisait partie de la LDH, une jeune fille, on ne citera pas son nom, et qui a été arrêtée pendant toute la manif, et après elle a été libérée. Donc on a demandé un référé là-dessus. Et les événements de Sainte-Soline nous ont vraiment donné raison. Vu les enregistrements qui ont été présentés, les observateurs, et entre autres parmi eux, il y avait des avocats. Donc, au lieu de réagir d'une façon démocratique, le gouvernement a réagi en nous menaçant de nous enlever les subventions. Quant à la première ministre, elle a rajouté une louche en disant on se radicalise, on défend une certaine catégorie.
Tout à fait, ça c'était début avril, hein, ouais, l'attaque de Darmanin, contre la LDH, là, ça a été assez en mots, ça a été violent.
Mais pour nous, ça a été très bénéfique. C'est-à-dire que, vu les attaques d'Armanin contre une association démocratique, nous avons vu bondir notre nombre d'adhérents. Mmh. Ça a augmenté dans le Maine-et-Loire de 50%.
Ah oui. Ah bah écoutez, comme quoi, hein.
Voilà, comme quoi...
Un peu de publicité.
Mal peut créer du bien. Voilà.
Ah, c'est intéressant.
Sachant que la plupart des adhésions sont des adhésions de soutien, mais aussi quelques personnes se sont engagées dans l'OALP, l'Observatoire des libertés publiques, et dans les autres commissions de la LDH.
Très bien. On peut peut-être parler maintenant du deuxième événement. C'est la venue de Pierre Douillard-Lefèvre. Oui. Une formidable conférence. Oui.
Alors, la première table ronde, il y avait les syndicats, il y avait CGT, CFDT, plus le syndicat des journalistes. Alors, le KHR, c'était qu'est-ce qu'on fait face aux atteintes aux libertés en général, pas que les violences policières, mais quelles sont vos propositions? Donc, on a eu des propositions de la part du syndicat solidaire, je fais pas de publicité, de la part de la CFDT, malheureusement, le responsable de la CGT était absent, mais bon, il était représenté par une collègue à lui. La suite, c'est l'invitation de Pierre Douillard-Lefèvre, qui lui a été éborgné à l'âge de 16 ans quand même. Et c'est lui qui a mené.
On s'en souvient, ça s'est passé à Nantes, hein.
Tout à fait.
Ça avait marqué à l'époque, hein.
Tout à fait.
C'était flashball, hein, je crois.
Et donc, ça a orienté un petit peu, c'est vrai qu'il a un petit peu un regard très sévère, mais bon, on comprend parce qu'il a mis du temps à saigner en justice la personne qui lui a.
Il est devenu sociologue.
Il est doctorant en sociologie. Et il a sorti 2 livres. Nous sommes en guerre, donc en reprenant les termes qu'utilisent certains membres du gouvernement, nous sommes en guerre contre, pour pas citer le président de la République,
la crise du Covid,
nous sommes en guerre, et ben il est tout le temps en guerre.
Bon, oui. Voilà. Et l'autre livre, je crois que c'est L'arme à l'œil.
Le premier, c'était L'arme à l'œil.
Voilà, tout à fait.
Le premier. C'était une conférence qui a regroupé plus d'une centaine de personnes quand même, et ce que j'ai constaté, c'est que les gens sont arrivés avant 18h, et ils partaient pas après 20h30. Donc c'est un travail qui va s'inscrire dans la durée parce que les atteintes aux libertés, vous avez vu, on a un triste anniversaire quand même pour la loi 1901. Le 1er juillet, c'était l'anniversaire et donc le Conseil d'État a validé les propositions du gouvernement sur le pacte républicain. C'est-à-dire qu'on peut vous enlever les subventions ou le local. Donc ça concerne toutes les... Et c'est vrai qu'on a essayé de tirer le signal d'alarme, que ce soit... le gouvernement nous a montré qu'il refuse d'écouter les syndicats qui ont manifesté pacifiquement à 90%. Il y avait 10% de violents. Hein. Et là, il y a eu la dissolution de Sainte-Soline. Avant, c'était toutes les associations islamiques.
Les soulèvements de la terre, tu veux dire.
Oui, voilà. Les soulèvements de la terre. Merci de me rappeler. Et avant, c'était, on s'attaquait plus à des associations musulmanes. Après, les musulmans, maintenant, c'est les soulèvements de la terre. C'est les menaces contre les droits de l'homme et d'autres associations, peut-être, qui vont suivre.
Et lors de cette conférence, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'il y a cette militarisation...
du langage.
Voilà, de la police avec les armes, mais aussi du langage, avec « nous sommes en guerre », etc., ce qui crée un climat anxiogène, ce qui rend des gens, je pense, plus nerveux, et ça crée des tensions encore plus fortes, quoi, et des sentiments d'insécurité, et des gens qui réagissent de façon moins sereine qu'on devrait faire, quoi.
Mais c'est vrai que... En tant que Ligue des droits de l'homme, on peut comprendre aussi que des fois, les policiers ont du mal à faire leur travail, vu les conditions de travail, vu le stress. Ça, on peut le comprendre. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est la violence gratuite.
Et une forme d'impunité lorsqu'il y a assez prouvé, voilà. Mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que voilà. C'est comme s'ils étaient protégés, en fait. Hein. On parlait même de juges qui ne serait pas parfaitement objectif dans ces cas particuliers.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai assisté au procès des jeunes qui ont en comparaison immédiate. Et il y avait, dans le premier procès, il y avait beaucoup de policiers devant le tribunal judiciaire. Ce qui m'a frappé, c'est que la comparaison immédiate, les preuves et tout. Mais par contre, quand il s'agit de prouver la violence d'un policier, ben, il faut attendre 107 ans pour avoir une réponse.
Et encore.
C'est triste, mais bon.
Et si nous souhaitons en savoir plus sur tout ça, pourriez-vous nous dire où peut-on vous contacter ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme, elle est à l'espace Frédéric Mistral, 4 Allée des Baladins. On a un blog, et sur le blog, vous pouvez trouver le
numéro. Un blog très bien fait.
Oui, et qui est réactualisé, pas plus tard que ce matin, il a
D'accord,
été encore
ouais.
réactualisé.
Ouais.
Et donc, toutes les informations, vous les avez sur ce blog qui fonctionne bien.
Qui est de grande qualité.
Merci beaucoup. Merci à Amnesty.
Merci à vous.
Scrupuleusement.
On se retrouve après une pause musicale.
L'alliance sera tellement
funky.
Vina et Melka.
Make it funky.
L'esprit de l'alliance est
funky.
L'alliance sera tellement
funky.
Vina et Melka.
Make it funky.
L'esprit de l'alliance est
funky.
Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. En mille, mille morceaux, car les villes aussi, Joe, sont touchées par le manque de respect. Oh.
Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself and the rest will flow.
Du respect pour le bang bang, boogie boogie, hoogie hoogie, haha. Respect l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental number one, ouais, on fait partie. Je...
Magic in the mood, find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for.
Chez nous, c'est la PETA qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ 1 qui nous ont fait 1 et nous font danser 1. Oh, oh yes, it's good to be a king.
And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow.
Le diamant voyage sur le sillon en kilométrage illimité et transmet le son. On l'a empêché plus au pays d'évoluer. Mais pire dans le domaine, nous sommes restés acharnés du respect du vinyle, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme Dinas. Life's a bitch and then you die. Voilà.
Keep
retour dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. Vous venez d'écouter un titre de rap de 1995 du groupe Alliance Ethnique. Ça s'appelle Respect. Allez, c'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
La mort de Naël, un adolescent tué par un policier à Nanterre le mardi 27 juin, a vivement fait réagir. Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé qu'un véhicule avait foncé sur deux motards de police. Mais une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a montré qu'un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré. Les habitants des quartiers des villes de Paris et d'ailleurs s'enflamment.
Suite aux émeutes qui ont éclaté depuis la mort de Naël, le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme souligne les profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre françaises. Si elle reconnaît qu'il y a également eu un grand nombre de policiers blessés, Madame Chamdazani appelle les autorités à s'assurer que l'usage de la force par la police pour s'en prendre aux éléments violents lors des manifestations respecte les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité.
Le gouvernement français a dissous les soulèvements de la terre le mercredi 21 juin en Conseil des ministres en reprochant au collectif d'appeler et de participer à des violences. Pour rappel, les soulèvements de la terre, c'est un regroupement de plus de 200 collectifs, associations locales, ONG, syndicats, engagés contre l'accaparement des terres et leur artificialisation. Leur dernière mobilisation, c'était le 25 mars dernier, à Sainte-Soline, où 10 000 manifestants étaient venus s'opposer à l'implantation d'une méga-bassine. Amnesty condamne la décision de dissolution qui est contraire au droit international et qui porte atteinte à la liberté d'association en France.
Parlons maintenant de la société de mode en ligne Shine. Dans une tribune, l'activiste Camille Etienne, le député européen Raphaël Glucksmann, l'entrepreneur Yann Rivolan et la journaliste Victoire Sato demandent un bouclier législatif et réglementaire pour mettre fin à un système d'exploitation mis en place par la marque chinoise. Ce business model est fondé sur la destruction de l'environnement et sur l'abolition des droits sociaux. Selon un documentaire de la chaîne britannique Channel 4, la marque chinoise contraint des personnes à travailler 18 heures par jour, le plus souvent sans même leur fournir de contrat de travail ni d'assurance.
L'opposant russe emprisonné à Alexis Navalny a obtenu le mardi 6 juin la condamnation de la Russie par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'absence d'enquête effective sur son empoisonnement en 2020. Les juges ont condamné Moscou à verser 40 000 euros pour dommages moraux à Alexis, qui est le principal opposant au régime du président Vladimir Poutine. Cette cour a pour rôle de faire appliquer la Convention européenne des droits de l'homme à ses 46 membres. La Russie en a été exclue en septembre 2022 à la suite de son invasion de l'Ukraine, mais la juridiction peut encore être saisie pour des faits impliquant Moscou et commis avant cette date.
Partons maintenant en Chine. Le samedi 1er juillet, une nouvelle version de la loi anti-espionnage est entrée en vigueur. Elle confère aux autorités des pouvoirs renforcés contre celles et ceux qu'elles considèrent comme des menaces pour la sécurité nationale. Pour le moment, hormis les États-Unis, dont les relations avec la Chine sont tendues, les gouvernements étrangers n'ont pas fait part de leurs craintes pour leurs ressortissants. Mais pour rappel, en mai, un citoyen américain de 78 ans avait été condamné à un emprisonnement à perpétuité pour espionnage.
Le 14 juin, un nouveau drame s'est déroulé au large de la Grèce. 670 exilés sont morts noyés. L'Union européenne doit mettre fin à sa politique migratoire mortifère. Amnesty, avec 44 associations et ONG, dénonce les violations répétées du droit international sur les routes migratoires et demande l'ouverture de voies d'accès légales sur le territoire de l'Union européenne.
Finissons par une bonne nouvelle. Le 6 juin 2023 marquait la fin de 6 années d'acharnement judiciaire pour 4 militants turcs, dont Taner Kilic, l'ancien président d'Amnesty International Turquie. Ces femmes et ces hommes étaient accusés d'assistance à une organisation terroriste et risquaient la prison en raison de leur militantisme pacifique. Depuis la tentative de coup d'État en Turquie en juillet 2016, différents acteurs de la société civile sont soumis à des arrestations arbitraires et des poursuites judiciaires infondées. Les autorités turques utilisent des lois antiterroristes aux formulations vagues et imprécises pour criminaliser des actes légitimes. Saluons cet acquittement obtenu après des années de mobilisation.
Et on va on va maintenant écouter la dernière chronique de Céline avant les vacances. Une Céline bien triste. Écoutons-la.
Bonsoir Valérie. Difficile. Difficile cette chronique du mois de juin alors que les bruits du monde sont assourdissants. Comment dire, au milieu de cette fureur, la récurrence des situations des femmes et des hommes à la rue et l'épuisement qui en découle. Pourtant, le 13 juin, 20 personnes sont sans solution à Angers. 7 adultes, 13 enfants. Depuis le mois de janvier, c'est la première fois que nous atteignons un tel chiffre de personnes à héberger par les jokers qui se mobilisent de nouveau. Et malgré les alertes au préfet et à la mairie, le 20 juin, c'est toujours compliqué. 17 personnes sont sans solution, dont 12 enfants. À cause de la chaleur, nous le savons, le taux de mortalité des personnes sans abri est plus élevé en été. Le 21 juin, 4 familles. 4 familles sans solution. 15 personnes, dont une femme enceinte. Et puis, au-delà des chiffres que j'égrène depuis longtemps, maintenant, il y a ces petites histoires suspendues qui nous rappellent des visages, des noms surtout. Celle de cette maman georgienne, croisée dans le bus, qui donne des nouvelles, qui, elle, entame sa 3e année dans un hôtel avec sa fille, adulte, en situation de handicap. 3 années, 3 longues années à l'hôtel. Et puis, il y a celle d'Antonika, qui par SMS demande des nouvelles et annonce surtout qu'enfin, elle a pu obtenir sa carte de résidence de 10 ans. Petite légèreté dans le bruit assourdissant du monde.
Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. En ce début d'été, l'agenda militant était un peu vide. Alors Aimé, tu vas nous présenter un des livres de Pierre Douillard-Lefebvre qui s'appelle « L'arme à l'œil ».
Tout à fait, et cette présentation fait écho à la conférence organisée par la LDH la semaine passée à Angers, en présence de Pierre Douillard-Lefebvre. Dès l'introduction de son livre, l'auteur annonce la couleur, en revenant sur l'année 2007. J'ai perdu l'usage d'un œil, touché par un tir de lanceur de balles. L'actualité ne tarissant pas de surenchères policières, ni la cascade de blessures, mutilations et décès causés par la police, ces pages ne sont donc qu'une annonce qu'il nous faudra compléter collectivement. À travers l'arme à l'œil, Pierre Douillard-Lefebvre décrit comment des mesures sécuritaires, présentées comme exceptionnelles dans un contexte de préservation de la sécurité globale, ont permis, selon lui, l'avènement d'un État policier. Pour l'auteur, l'armement accru de la police doit toujours être expérimenté à petite échelle avant d'être utilisé contre tous. C'est ainsi qu'il explique que les lanceurs de balles de défense, comme le reste de l'arsenal policier, ont été expérimentés dans des quartiers ciblés, contre des lycéens et sur les ZAD, mais aussi utilisés dans des zones d'ombre de la République, comme les prisons et les centres de rétention, avant d'être généralisés.
Merci Aimé. N'hésitez pas à acheter ces deux livres, très très intéressants. Et il est déjà presque 19h30, c'est le temps de conclure cette émission, de remercier Abdou et Alain pour leur venue, merci beaucoup. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Bien sûr, vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G, passez un bel été et comme le dit Pierre Douillard-Lefebvre, cultivez la joie. C'est très important.
Bonne soirée.
À bientôt.
À bientôt.